par l'Australien, il dit que c'est un peu étrange. Donc là-dessus, oui, bien sûr. Alors, moi, j'étais en Arabie Saoudite, enfin, dans la région du Golfe, j'ai passé une partie du mois d'octobre et novembre là-bas. Les Saoudiens que j'ai rencontrés m'ont clairement dit bon, la Russie est enfoncée dans sa rhétorique de victoire dans sa guerre en Ukraine. Certes, la Russie est sur le point d'emporter effectivement certains territoires en Ukraine, mais on n'a pas dit évidemment que la Russie a perdu beaucoup de ses superbes sur le plan stratégique. En tout cas, de ce point de vue-là, c'est vrai que la Russie, même si c'est une manière pour les pays du Golfe de diversifier leurs relations aussi stratégiques avec Moscou, n'a honnêtement jamais constitué n'a jamais été un acteur, si vous voulez, déterminant. Vous avez, sur le plan sécuritaire, les États-Unis qui ont toujours été l'acteur dominant, et puis sur le plan économique, commercial et des nouvelles technologies, la Chine. Et malheureusement, l'Union européenne, qui est le grand absent et je dirais malade. De l'ordre international.
C'est un constat intéressant.
Même si l'Europe est très courtisée, notamment aujourd'hui la France, sur la solution à deux États, les Saoudiens n'hésitent pas, bien sûr, à venir chercher de l'aide et du soutien auprès de la France, qui a la position la plus claire depuis la déclaration de New York. Ça a été une coopération très bonne.
Avec les pays arabes, les pays du Pakistan, l'Arabie Saoudite, etc. Mais la France a joué un rôle essentiel.
Oui, si on veut. Je crois que l'Union aussi. Mais bon, c'est vrai que sur ce point-là, c'est vrai que la France a été assez claire. Sur la question aussi de la volonté de désarmer le Hezbollah et d'essayer de trouver une solution pacifique au Liban, il travaille en très bonne corrélation avec les Saoudiens. C'est clair. Il y a des dossiers, bien entendu, sur lesquels les pays de l'Union européenne ont une valeur ajoutée absolument incontestable. Hein. Notamment quand on a affaire à un personnage à la Trump, qui est up and down, hein, qui est assez imprévisible. Et qui pose d'ailleurs un problème pour les Saoudiens, même si effectivement il y a une très bonne entente personnelle qui est confortée effectivement à coup de milliards de pétrodollars de contrats avec les Angles et tout, si j'en passe. Mais il est clair que l'Union européenne pourrait jouer un rôle de contrepoids que malheureusement aujourd'hui ne joue pas. Il y a quelques pays au sein de l'Union européenne, mais l'Union européenne en tant que telle. Et la grande absence.
Vous voulez une question pour... Allez-y, avant que le docteur parle.
Il n'y a pas de problème. Pardon ?
Le protecteur des pays arabes, comme on dit. Je pense que ma question, c'était plus sur ce que disait le général, c'est la Turquie. On a bien vu que Erdogan a eu des grosses envies de refonder un califat. Il avait même insisté un peu. Enfin, une logique de califat et qui, en gros, aurait essayé de mettre de l'ombre à l'Arabie Saoudite. En gros, c'était un peu sa cible, même si c'est pas. Est-ce que vous pensez que qui va continuer un peu dans cet esprit, sachant qu'il est quand même traversé par probablement qui est la Chine sur une des routes de la soie, hein, c'est un peu ça.
Quelle est votre question, monsieur?
Et la question, c'est est-ce que vous pensez qu'il va continuer à intervenir et à avoir un pouvoir qui redescendrait une fois que seraient un peu calmées les opérations liées au 7 octobre?
Oui, enfin, moi je pense que l'histoire du pays de France, qui est un petit peu quelque chose de très médiatisé, ne correspond pas du tout à la réalité. On a un Erdogan qui est, sur le plan diplomatique et stratégique, l'un des plus grands stratèges actuels. Hein, je veux dire, ses calculs par rapport à la Russie, à l'Asie centrale, au Moyen-Orient et à l'Union européenne. Aujourd'hui, la Turquie est l'un des pays qui est considéré, notamment par les États-Unis de Trump, comme étant l'un des piliers de l'OTAN. Donc, bien sûr qu'il y a eu des velléités de la part d'Erdogan pendant les printemps arabes, de jouer de sa superbe, on connaît le personnage, il y a la rhétorique et puis il y a la stratégie, c'est un vrai pragmatique, c'est un vrai faux idéologue, Erdogan, c'est un pragmatique. Hein, donc, et force est de constater que ce soit au sein de l'Union européenne, avec les États-Unis, dans l'échiquier otanesque ou au Moyen-Orient, la Turquie est surtout le tableau. Et la Russie, par contre, a énormément perdu de sa pertinence stratégique. Alors, c'est pas enterré, hein, le boxe polaire, mais c'est quand même ces 4 années de guerre ont considérablement réduit son influence et mis la Russie quasi à jeter la Russie.
Alors, on a encore plein de questions, je crois. Il y en avait une là-bas. Ah, c'était pour deux.
Excusez-moi, docteur, une petite dernière, très rapide. Quel est le niveau d'investissement de la Chine dans cette zone sur le plan économique, dépenses ou d'influence face au, entre guillemets, vide laissé par les États-Unis et à la recomposition de la zone? Est-ce que la Chine fait le forcing ou est-ce qu'elle reste prudemment à l'écart dans cette zone?
Non, la Chine est le premier partenaire économique dans tout le Moyen-Orient. C'est devenu... ils ont dépassé l'Union européenne, parce que l'Union européenne, je suis là, je dénigre pas l'Union européenne, politiquement, effectivement affaiblie, mais sur le plan économique, ça reste une puissance. Hein. Donc la Chine est le premier partenaire, très clairement. Ils ont investi énormément dans les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, donc ils ont une considérable avance, très clairement, qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train de rééquilibrer, même voire à leur avantage aujourd'hui. En tout cas, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. Non, sur le plan militaire, ça, évidemment, il y a les drones, il y a
Khabarovsk-5. Alors, pour Sofia, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai une en tous les cas. Alors, moi, Sofia, je voulais vous poser vraiment la question. La question sur le Hezbollah est-il vraiment opposé et le Hamas, parce que c'est des idées politiques, c'est une idéologie, une idée peut couler, peut s'écrouler demain matin, peut disparaître, ou bien alors le Hezbollah, on voit bien qu'il est à place actuellement, mais va-t-il remettre ses forces, quelle va rester son pouvoir de vigilance au Liban, et puis demain le Hamas dans les négociations actuelles, est-il une force résiduelle ou reste-t-il une force très importante vis-à-vis d'Israël en maintenant encore une partie de la bande de Gaza? Voilà, c'est une question que je voulais vous poser.
Merci à vous. De la finule?
De la finule.
Oui.
Mais vous avez une question effectivement en ligne, je vous poserai après.
D'accord.
De la finule.
D'accord. Elle revient souvent, justement.
Elle revient souvent.
Merci infiniment pour cette question en général. Et en fait, cette question est au centre de mon déroulé et de tantôt, puisque c'est de cela que va dépendre finalement, partiellement en tout cas, la paix au Proche-Orient. Des mouvements tels que le Hezbollah qui tient le Liban quasiment en otage, et le Hamas qui est l'organisation la plus extrémiste. Côté palestinien en tout cas, que va-t-il advenir de ces deux mouvements qui ont été grandement mis à mal par les frappes israéliennes et par la dernière guerre qui a été menée par Tel Aviv en représailles aux attaques du 7 octobre. Alors je dirais ceci en réponse à vos questions, c'est que bien sûr le Hezbollah a été laminé, il a été décapité. Ses capacités militaires ont été grandement endommagées. Et le plus grave, c'est que le territoire par lequel transitaient les armes venant de l'Iran est aujourd'hui fermé. C'est-à-dire, c'était la Syrie. Or, aujourd'hui, la Syrie est fermée au Hezbollah, puisqu'elle appartient, elle est désormais au moins d'un chef d'État et d'un groupe qui est évidemment. Ennemi du Hezbollah, puisque le Hezbollah a combattu les Syriens sur leur territoire pendant plus de 10 ans. Cela étant dit, le Hezbollah a été décapité à plusieurs reprises. Et il est ressorti en 1983, notamment en 1985. Il a mené des opérations terroristes qui nous ont frappés en plein cœur, le Drakkar notamment, rappelez-vous, c'était à Beyrouth, et 158 pacifistes tués, des diplomates de 200 américains tués, et il y a eu cette fameuse frappe qui a décapité le Hezbollah et tué son secrétaire général qui semblait irremplaçable. Mais depuis, on a vu Israël qui, pendant 20 ans, a été le droit de Téhéran, l'homme, le deuxième homme le plus puissant du Moyen-Orient, non israélien, évidemment, parce que l'Israël est la plus grande puissance du Proche-Orient, mais après Khamenei, vous avez Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah décidé d'intervenir en Syrie ou pas, décidé de tuer le premier ministre israélien ou pas, à savoir Hariri. Nasrallah décidé de l'économie du pays, puisque les banques étaient obligées, et quand elles refusaient, il y avait des bombes qui étaient déposées au pied des banques. Pas si vous réalisez. Aujourd'hui, il est mort. Le pays est débarrassé de la force qu'il voit. Mais demain, si les Israéliens s'éternisent au Liban, le Hezbollah deviendra puissant et on aura un autre assemblée Hezbollah. Aujourd'hui, ça semble compliqué. Parce que finalement, qu'est-ce qui justifie le recours ou l'appui populaire à un mouvement de ce genre, surtout dans un pays comme le Liban, qui est un pays comme tout très modéré? Eh bien, c'est une anomalie comme une occupation. Or, cette occupation du Liban, si elle disparaît, il y a de fortes chances pour que petit à petit, le Hezbollah, le Libanise, cesse d'être un proxy iranien. Eh bien, rentre dans la vie politique, comme il l'est déjà, par
est d'abord un mouvement militaire qui a ouvert une vitrine politique juste pour normaliser un petit peu ses relations quand il en a besoin. Mais c'est avant tout une milice pro-iranienne qui est aux ordres de Téhéran, quels que soient les dégâts qu'elle provoque dans le pays où elle grandit, où elle évolue, c'est-à-dire le Liban. Bon. Côté Hamas, c'est plus compliqué. Parce que la cause qui a conduit à la montée en puissance du Liban n'est pas disparue. Et donc, par conséquent, quel que soit le nom du mouvement qui prendra la relève, de fait, parce que moi, on a eu, moi j'ai couvert la. L'assassinat de Youssef Yassine, qui était le fondateur du Hamas, et puis de Patrick Chakati, ils meurent, et il y en a d'autres qui reviennent. Ceux qui étaient sous les bombes hier, dans 20 ans, dans 15 ans, seront les futurs chefs du Hamas. Qu'est-ce qui peut tuer le Hamas? C'est les causes qui ont mené à son montée en puissance, elles disparaissent. Et que petit à petit, ces deux populations apprennent à se respecter, à vivre ensemble, à faire la paix, à coexister de manière intelligente. Donc, pour vous répondre, oui, les deux mouvements sont laminés. Il n'empêche que on ne tue pas une idéologie. Et c'est ce que me disait très justement, j'ai couvert la bataille de Mossoul, la libération de la ville, qui était aux mains des terroristes de l'État islamique. Et avec la famille de Foucault, il y a la Golden Division, et puis il y avait nos forces aussi dans les feux. Et on nous disait, la guerre n'est pas terminée, on va l'effacer, mais après, il faut déradicaliser, parce qu'on ne tue pas une idéologie, il faut la combattre dans les cerveaux, il faut comprendre pourquoi, et il faut déradicaliser tout ce monde-là. Et bien, c'est la même chose. Et pour le Hamas, quel que soit dans 10 ans, si vous allez avoir de nouvelles crises, un nouveau Hamas, s'appellera différemment, les hommes changeront, les noms changeront, mais la fonction restera, parce que la cause originelle, elle, est inchangée pour l'instant, en espérant évidemment que les choses évoluent.
Un grand merci. Alors, on va peut-être une dernière question, parce que il est déjà tard. Normalement, c'était jusqu'à là. Alors, vous voyez, donc c'est passionnant.
Merci.
Alors, merci pour cette vision stratégique du Moyen-Orient. La fin du mandat de la CNIL en 2027 va-t-il concourir à la viabilisation stratégique et l'hégémonie d'Israël sous le prétexte de la paix conduite à la paix?
Alors, la fin de la question me semble en contradiction avec son début, mais je vais quand même essayer de m'adapter. Allez. Ne vous inquiétez pas. Je pense, effectivement, la CNIL a fait un travail formidable. Moi, j'ai couvert le massacre de Cana en 1996, où la CNIL a perdu beaucoup d'hommes. J'ai travaillé avec le contingent français qui était à Nakoura, à une période où justement elle était la cible d'attaques israéliennes. Et à l'époque, notre ministre de la Défense, Michel Alliomari, avait ordonné que les Israéliens faisaient des piquets sur le char Leclerc. Et les piquets, je parle sous votre contrôle en général, sont considérés comme un acte agressif, voire un acte de guerre. Et du coup, j'étais sur place quand les soldats, les officiers français ont débâché pour être prêts, parce que ça survolait très bas les avions israéliens sur le pivot des casques bleus. Donc la relation est tendue entre les casques bleus et Israël. Parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que Israël accuse les casques bleus de ne pas faire suffisamment leur travail et de ne pas empêcher le Hezbollah de transporter des armes, de cacher des armes. Et finalement, parce qu'ils n'ont pas envie de témoins lorsqu'ils violent, ce qu'ils font de manière quotidienne, la souveraineté territoriale du Liban par les airs, plus tard parfois par la terre. Et donc, voilà, il y a une relation très tendue. Je ne pense pas qu'en 2027, on n'est pas à l'abri, et c'est tant mieux, que le mandat de la CNIL soit reconduit. Parce que c'est une des frontières les plus tendues au monde. Cela étant dit, ce serait peut-être finalement un moyen pour que les deux parties prennent en main leurs responsabilités, d'autant qu'il y a des chances l'armée libanaise, aujourd'hui, eh bien, ce n'était pas le cas avant, c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, et les Libanais pensent aux anges, eh bien, finalement, que l'armée libanaise se déploie sur tout ce territoire du Sud-Liban, qui fut pendant longtemps une bande occupée par Israël, qui justifiait donc une résistance et la création du Hezbollah, hélas, et que quand les Israéliens sont sortis en 2000, l'église de Hezbollah est restée et l'armée n'est jamais rentrée. Parce que c'était devenu pas un non-manisien, mais un Hezbollah Land où les militaires, l'armée officielle, la violence légitime de l'État libanais ne pouvait pas aller. Il est arrivé au Hezbollah de faire tomber des hélicoptères, moi j'ai couvert les funérailles de ces officiers, des hélicoptères de l'armée libanaise parce qu'ils avaient osé survoler un territoire qui était censé être aux mains du Hezbollah et qui échappait finalement au contrôle de l'État. Donc voilà, ça pourrait être une bonne chose, et que l'armée libanaise, qui est une armée professionnelle d'ailleurs, est souvent formée en France pour les officiers, elle remplace le Hezbollah, et du coup, là, si nous pouvons en mettre, et ces braves casques bleus pourraient aller protéger ou maintenir la paix ailleurs. Voilà.
Alors, y a-t-il encore un maquillage de mouvement social? Y a-t-il une question?
C'est une excellente question. J'avais fait un film à ce sujet que j'avais nommé avec un peu d'humour l'armée du salut, parce qu'elle avait beaucoup moins de moyens que le volant, et que j'avais filmé un homme en caméra cachée, un militaire, je ne sais pas ça souvent, hein, mais il protège le militaire, qui était cité, ainsi que ses galons, et qui me dit le volant est plus fort que nous, et je n'irai jamais désarmer le volant parce que ça pourrait créer une guerre civile. Voilà ce qu'on disait en 2007. Donc ça fait quand même un moment. C'est une bonne question et la réponse, je vais la faire très simple et courte. En réalité, ce que vous dites est vrai. Et c'est une des raisons pour lesquelles, alors que le Liban est débarrassé de la tête du Hezbollah depuis septembre de l'année dernière, et qu'il semble complètement tétanisé, au lieu d'aller voir le Hezbollah, dire non, on a fini de rire, vous rendez les armes. Et vous rentrez à la maison. Eh bien, c'est justement parce qu'il y a une crainte que l'armée, qui est la dernière institution qui transcende les confessions, eh bien, qu'elle se sent dans deux. À cause de la présence en son sein d'éléments chiites qui auraient fait allégeance aux Hezbollah et qui seraient en même temps au sein de l'armée. Mais c'est une option qui est de moins en moins probable. Vous savez pourquoi? Parce que les chiites, parce que les Hezbollah est un parti communautaire, or les chiites, eh bien, ne rejoignent pas l'armée. La direction de l'armée est au monde des chrétiens, plus ou moins, simplifiés, et le gros de la troupe, pour des raisons financières, parce qu'ils sont pauvres, c'est des sunnites du nord de Dieu Akkar. Donc, l'élément chiite, finalement, il n'est pas très important. Les chiites ont plutôt rejoint les Hezbollah. Et par conséquent, c'est un risque qu'on peut surmonter, je pense, que les Libanais peuvent surmonter.
Et puis les Américains également.
Et les Américains, 250 ou
245.
C'est la
force avant la FINUS.
C'est la force internationale. C'est pas la FINUS.
Et l'armée du Liban Sud, ça c'est une remarque.
La MES.
Et Thomas d'Israël, qu'est-ce que vous répondez?
Et l'armée du Liban Sud et Thomas d'Israël.
Et Thomas d'Israël, c'est ce que
l'armée du Liban Sud. Alors l'armée du Liban Sud n'existe plus. Et l'armée du Liban Sud, rappelez-vous, c'était Antoine Lafage. Antoine Lafage, qui c'était une partie de l'armée. En réponse à votre question, monsieur, qui vous dit qu'il y a toujours un risque que l'armée se scinde en deux. Et oui, c'est un des gros problèmes au Liban pour des raisons communautaires. Et l'ALS, l'armée du Liban Sud, c'est une partie de l'armée, c'est-à-dire 1948 à 2000, la période où Israël a occupé le Liban parce qu'il y avait une présence palestinienne qui constituait un danger pour Israël, et bien l'ALF a fait tampon. Et cet ALF, qui était aux mains d'un homme qui s'appelle Antoine Lorraine, il y avait surtout des chrétiens et des chiites qui n'en pouvaient plus de la présence palestinienne au Liban. Eh bien, ils n'existent plus depuis que le Liban est libéré le 25 mai 2000. C'était le 25 mai 2000.